un bon sabbat de retour de fête à tout le monde. Le titre du sermon, rester centré sur le Dieu de la fête. Faut que ce soit notre but au retour de la fête. Parce qu'on revient dans nos routines habituelles. Et il faut garder le cap. Faut pas recommencer à tomber tranquillement dans nos routines et puis ne pas penser que c'est pas d'une importance majeure de rester attaché à Dieu plus que jamais. Écoutez, il y a une semaine, le sabbat passé, la plupart d'entre nous, on était ensemble sur notre site de fête au Québec, à Drummondville. Et les quelques-uns d'entre nous qui n'ont pas pu cette année se rendre à la fête étaient à la maison sur Zoom. On était ensemble quand même dans le même esprit et l'an prochain, ils pourront peut-être être avec nous. Ça a été une très belle fête. Et moi, il y a eu quelque chose de plus spécial cette année. Parce que j'ai suivi la suggestion qui nous a été faite ou la directive qui nous a été donnée au début de la fête de se couper des nouvelles du monde. Alors, j'ai pas écouté un seul bulletin de nouvelles à la télévision ou à la radio. J'ai pas lu aucun journaux, rien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai resté dans la bulle de la fête. J'ai resté dans la bonne nouvelle de la fête. Au lieu de prêter oreille aux mauvaises nouvelles de l'extérieur, puis d'être ambivalent dans les deux, puis d'avoir des émotions négatives. J'ai trouvé ça tellement bon. Et ceux qui l'ont fait en ont tiré grandement profit. Et dans les autres fêtes, c'est exactement ça que je vais faire aussi. Alors, notre fête, ça a été limité dans le temps, juste quelques jours, mais ça, c'est jusqu'à temps que le Christ revienne et que là, la fête dure pour 1000 ans. Pour les êtres humains, ce sera la délivrance et ce sera l'arrivée d'un monde nouveau avec plein de bénédictions. Mais pour le moment, nous, on est revenus chez nous. On a dû faire le lavage. D'ailleurs, il était temps qu'on revienne avant qu'on soit obligé de reporter les mêmes vêtements. On avait calculé, mais il y a eu les lavages à faire, prendre le courrier, reprendre nos activités, commencer à nous préparer, nous, dans l'hémisphère nord, pour l'hiver qui est proche. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais on a avec ça l'impression que la fête, elle est déjà loin derrière. Vu qu'on est entré dans nos activités, c'est comme si c'était loin en arrière. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très facile à cause de ça de retomber dans nos routines, dans nos anciennes habitudes. D'accord pour les bonnes, mais pas d'accord pour les mauvaises. Et c'est facile de retomber dans les mauvaises habitudes, en fait. En fait, au retour de la fête des tabernacles, c'est plutôt le temps de faire des ajustements et de procéder rapidement à des changements déterminés pour dire, moi, je vais maintenant mettre en pratique telle chose. Je vais contrôler ma langue davantage ou je vais être plus précis dans mes priorités chaque jour. Ce genre de choses-là, le faire. Le mettre en pratique tout de suite, ce qu'on a appris à la fête, ou ce qu'on a vu comme faiblesse chez soi. On a vu des faiblesses, moi j'en ai vu, des faiblesses à la fête, qui me rendent conscient que je dois travailler sur certains points en particulier. Et c'est intéressant, la fête a été vraiment enthousiasmante. On a revu des membres qui étaient à l'église il y a 30 ans, il y a 40 ans, et ils sont encore là, qui tiennent bon, c'est formidable. Et on a vu de nouvelles personnes avec leur histoire spéciale, encourageante. On a pu échanger là-dessus. Et pour certains, ça a été exigeant de venir à la fête. Quand je pense à notre ami Inou, qui vient du Grand Nord du Québec, il a parcouru plusieurs milliers de kilomètres en avion. Ça lui a coûté plusieurs milliers de dollars juste d'avion pour descendre à la fête à Drummondville. Pourquoi? Pour se présenter devant Dieu selon le commandement que Dieu a donné. Ça, c'est formidable et c'est stimulant pour les autres. C'est stimulant pour les nouveaux qui arrivent de voir des gens comme ça qui sont là depuis des années et qui font de grands efforts pour plaire à Dieu, pour le servir. Alors, on a vécu toutes sortes de choses. On a rencontré des obstacles. On a eu des défis à relever. C'est sûr, c'est normal. Maintenant, je reviens là-dessus. La saison des fêtes de l'automne, c'est toute une bénédiction. C'est le temps d'un renouveau, d'un rafraîchissement, d'être fortifié, de recharger nos batteries spirituellement. C'est ça qui s'est passé. On a eu des messages tellement encourageants, tellement nourrissants, et ça nous a rapprochés de Dieu, ça nous a rendu Dieu plus réel encore. Et par le fait qu'on était dans d'autres conditions, ces conditions-là représentent les conditions dans lesquelles le monde entier sera après le retour de Christ bientôt. Nous, on y a goûté d'avance. C'est un avant-goût. Ça nous rend encore plus réel la fête de Dieu qu'on a pu vivre. Et comme je vous dis, on est revenu à la maison et on a repris nos activités. Et parfois, pour certains, la marche a été haute. Repris le travail, retourné à l'école, commencé à entendre des commentaires négatifs autour, réentendre des nouvelles difficiles autour, voir la dureté parfois, la méchanceté autour. C'est pas le monde de Dieu, hein? On a vécu comme dans une bulle à l'intérieur du monde de Dieu à la fête. Mais là, on revient dans le monde qui n'est pas le monde de Dieu. Et on est replongé un peu dans nos habitudes et on voit les chicanes politiques autour qui sont toujours décevantes. On n'a pas grand temps à consacrer à ça, mais on en entend parler et on entend certaines mauvaises nouvelles chaque jour. Alors, on est replongé dans nos activités et le temps passe. Un peu comme si la fête n'avait pas eu lieu. Plus on s'éloigne de la fête, c'est un peu comme si la fête n'avait pas eu lieu. Un peu comme si Dieu devenait de moins en moins réel, si on fait pas attention. C'est pour ça que je donne le sermon aujourd'hui, avec l'objectif dans lequel je le donne. D'ailleurs, ça, c'est arrivé à la nation d'Israël. La nation d'Israël a vécu des fêtes de tabernacle superbes. Ils ont été tellement encouragés, ils ont été délivrés, bénis. Et pas longtemps après, ils restaient pas fidèles, ils se détournaient de Dieu, et là, les problèmes arrivaient. Et c'est arrivé aussi à des rois d'Israël, même au roi Salomon, comme on va voir tantôt, pourtant qui était placé dans des conditions idéales. C'est pour ça que je vous dis qu'il nous faut faire attention, nous, de garder le cap sur Dieu. Il y a des leçons précises pour nous. Reportez-vous au deuxième livre des Chroniques, à Chroniques, deux Chroniques, s'il vous plaît. Deux Chroniques, au chapitre 1. On va voir plusieurs versets dans le livre des Chroniques aujourd'hui. Deux Chroniques, chapitre 1. On va lire les versets 1 à 3. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Et là, voyez ce qu'il y avait de spécial à cet endroit et pourquoi Salomon s'y est rendu. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. C'était à cet endroit-là que la tente d'assignation avait été placée. Elle était là, d'ailleurs, selon M. Ogwin, depuis 300 ans à ce moment-là. Mais l'Arche d'Alliance, elle, n'était pas là. Et on va voir tantôt qu'ils vont l'amener au bon endroit. L'Arche d'Alliance était à Jérusalem, dans une autre tente, verset 4. Mais l'Arche de Dieu avait été transportée par David à Kirjath-Jéréaïm, à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Alors, David avait fait ça. David avait dressé une tente à Jérusalem pour y placer l'arche. Donc, au début de son règne, Salomon se rendit à Gabaon, comme on a vu, pour prêter allégeance à Dieu, qui lui était apparu. On le voit au verset 7, ça. Et à qui Dieu avait fait des promesses extraordinaires. Vous connaissez un peu l'histoire. Maintenant, avançons dans le temps. Allons à 2 Chroniques, le chapitre 2. Salomon, à ce moment-là, est allé de l'avant parce qu'il avait l'intention de bâtir un temple à Dieu, ce qui avait été planifié par son père, David, mais que David n'a pas pu faire. C'est Salomon qui devait le réaliser. Alors, Salomon est allé de l'avant pour bâtir le temple de Dieu et aussi pour se bâtir à lui-même une maison royale. 2 Chroniques 2, verset 1. Salomon ordonna que l'on bâtisse une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui, comme je vous dis. Maintenant, regardez le chantier gigantesque que ça a été. C'était pas peu de choses, là. Si on s'arrête pas aux détails, on pense pas de la dimension que ça avait, l'importance que ça avait. Regardez le verset 2. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux. 70 000 hommes. Pour porter les fardeaux de la construction du temple. OK? Ça vous donne déjà une petite idée. Continuons. 80 000 pour tailler les pierres de la montagne. Il y avait besoin de 80 000 tailleurs de pierres. Seulement pour tailler la pierre. Et après ça, 3 600 hommes comme maîtres de chantier, comme directeurs de chantier. Vous imaginez un peu, ça donne une idée de la grandeur de ce projet-là. Non seulement ça, mais on voit que Salomon a fait appel à un allié de son père, le roi Huram, le roi de Tyr. Tyr, c'est une ville phénicienne. Alors, regardons le verset 3 et le début du verset 4. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, « Fais pour moi, comme tu as fait pour David, mon père. » Il avait aidé David de plusieurs façons. « À qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation? » Le palais de David avait été bâti grâce à Huram et aux produits qu'il lui avait envoyés. Et regardez verset 4. « Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer. » C'est ce que Salomon a dit au roi Huram. Maintenant, allons à 2 Chroniques, chapitre 3, un peu plus loin. Et là, on va voir le lieu précis et la date du début des travaux de construction du temple. Et vous allez voir, ça a un lien avec les fêtes de Dieu. Celle-ci a un lien avec la fête de la Pâque. Et plus tard, lorsque ce sera la dédicace du temple une fois terminée, ce sera en rapport avec la fête des tabernacles que nous venons de célébrer. OK? Alors, 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Donc, c'est à Jérusalem, sur la montagne de Morija. C'est un lieu très spécial dans l'histoire d'Israël, qui avait été indiqué à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jébuséen. Verset 2. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la quatrième année de son règne. Second jour du second mois du calendrier de Dieu, pas de notre calendrier. Ça veut dire 2 semaines après la Pâque, si vous comptez bien. OK? Le second jour du second mois. Parce que la Pâque, c'est le 14e jour du premier mois de Dieu. Alors, on arrive dans le temps à ce moment-là. Quand la construction du temple a été achevée, là, on a amené tout le matériel qui devait être mis à l'intérieur, y compris, et c'était l'élément essentiel, l'arche d'alliance de Dieu. L'arche d'alliance de Dieu. On le voit dans 2 Chroniques, chapitre 5, un peu plus loin. 2 Chroniques, chapitre 5. On va lire les versets 1 et 2. « Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens de Jérusalem et tous les chefs de tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. » Maintenant, ici, j'amène une petite précision. Sion, ici, c'est la cité de David, celle qu'on appelle la cité de David. C'était tout près d'où le temple de Salomon a été construit. C'était dans la même location. C'était proche du temple. Maintenant, à quel moment? Regardez le verset 3. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le 7e mois. Alors là, il y a une fête qui s'en venait le 7e mois. C'est dans le mois où on se trouve. C'est le 7e mois de l'année, selon le calendrier de Dieu, où se trouvent les 4 dernières fêtes de l'année. Versets 4 et 5 maintenant. Lisons 4 et 5. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation, et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Et ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Alors, ils y ont placé maintenant tout ce qui devait aller dans le temple. Maintenant, verset 6, regardez ce qui arrive à ce moment-là. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Et là, ce qui s'est passé, ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent ni être comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Ils ont tué tellement d'animaux, ils ne pouvaient même pas les compter. Mais écoutez, il y avait quelques centaines de mille personnes qui étaient sur place pour cette occasion-là. C'est ça qui s'est passé. C'est une foule immense. Donc, il y avait besoin de beaucoup de nourriture. Et ces animaux-là servaient en même temps de nourriture pour les gens qui étaient sur place. Et ça a été tellement grandiose qu'il y a eu un immense concert, un très grand concert de louanges qui a été présenté à Dieu pour la dédicace du temple à ce moment-là. On le voit au verset 13 et 14 du même chapitre. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, en parlant de Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Et regardez ce qui s'est passé. En ce moment, la maison de l'Éternel, fut remplie d'une nuée. Plus que ça, verset 14, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et ça, c'était la réalité de Dieu devant leurs yeux. Ces gens-là, d'accord, n'avaient pas l'Esprit de Dieu, mais ils avaient la présence de Dieu dans des signes extraordinaires qui leur prouvaient la réalité de ce grand Dieu qu'ils voulaient servir et qu'ils étaient appelés à servir. Puis après ça, vous pourrez lire au chapitre 6, 2 Chroniques, chapitre 6, vous pourrez lire la prière que Salomon a adressée à Dieu à ce moment-là. Je vous en donne simplement un tout petit passage, le verset 14. 2 Chroniques 6, verset 14. Salomon dit ceci à Dieu. « Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes alliance, tu es un Dieu fidèle, et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. » Ici, Salomon souligne que ceux qui marchent avec Dieu de tout cœur, que Dieu est avec eux, que Dieu les bénit, que Dieu les soutient, que Dieu les aide, malgré leurs épreuves, malgré leurs difficultés. Et après cette prière, il y a un autre événement frappant qui est intervenu, on le voit dans 2 Chroniques, un peu plus loin, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 à 3. « Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. » Un autre signe très évident de la présence de Dieu. Verset 2, « Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. » Bon, alors on voit ici à quel point ça les a impressionnés. Puis si on avait été là, on aurait été impressionnés aussi. Sauf que ça n'a pas duré. Peu de temps après, ils se sont détournés de ce Dieu-là. Et même Salomon, qui avait adressé cette prière superbe, et qui a vu, qui a assisté à ces choses-là, et qui a bénéficié de grandes bénédictions de Dieu, au-delà de tout être humain, je pourrais dire, n'a pas tenu le coup. C'est un avertissement pour nous. Et ça nous met en garde de ne pas s'éloigner de Dieu, de devoir rester proche de lui pour les bonnes raisons et de la bonne façon. Verset 5 de 2 Chroniques 7, verset 5 maintenant. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs. 22 000, vous imaginez le tas de charcuterie là, 22 000 bœufs et 120 000 brebis. C'est tout un repas préparé là. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Il y a eu de grandes fêtes, de grandes réjouissances. Verset 8. Salomon, et là je vous amène vers la fête des tabernacles et une fête tout à fait spéciale, parce que à cause de la dédicace du temple, de l'inauguration du temple, il y a eu une double célébration de la fête des tabernacles. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours, et tout Israël avec lui. Et là ici, il parle de la fête de la dédicace du temple. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours, et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue, depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle. Et regardez bien. car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours. Ils ont commencé par faire ça pendant 7 jours pour faire la dédicace de l'autel du temple. Et la fête pendant 7 jours. Ben oui, il y a eu double à ce moment-là. Comme une double fête des tabernacles, si vous voulez. Ça a été 7 jours pour la dédicace du temple, et ensuite les 7 jours de la fête avec le dernier grand jour. Et regardez le verset 10. Le 23e jour de ce 7e mois, Salomon renvoya dans ses temples le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon, à Israël et à son peuple. Un peu comme nous qui avons été présents à la fête, soit de chez nous, ceux qui l'ont suivi comme il faut, et ceux qui étaient en présentiel à Drummondville ou dans d'autres endroits, on est revenu de la fête content, gonflé à bloc. On avait eu une vision de ce qui s'en vient, une vision encourageante de ce qui s'en vient. Comme nous, après des moments d'enthousiasme spirituel, de rapprochement avec Dieu, parce qu'on a goûté d'avance ses interventions, les interventions qu'il va faire, mais les interventions qu'il a fait à la fête. Il en a fait des interventions à la fête. On l'a vu, il y a eu des bénédictions, il y a eu des protections, il y a eu des guérisons, il y a eu des encouragements. Il y a eu une vision qui a été donnée, des choses encourageantes qui viennent. Cette fête de la dédicace du temple est, dans le fond, tout le règne de Salomon. C'est juste une petite image ou un petit avant-goût du millénium qui s'en vient, même si ça a l'air grand. Et je vais vous montrer encore d'autres choses plus grandes concernant Salomon et son règne. C'est un petit aperçu de la splendeur du monde de demain quand le Christ sera là, quand on développera d'aider les gens à avoir le caractère de Dieu et où les bénédictions vont être graduellement répandues sur la terre. Voyons ce qui s'est passé maintenant au bout du premier 20 ans du règne de Salomon pour vous montrer la gloire que Dieu a donnée, les richesses qu'il y avait et ce qui représente ce qu'il y aura dans le monde à venir pour l'ensemble de la société. 2 Chroniques 8, juste un peu plus loin, 2 Chroniques 8, nous allons lire les versets 16 à 18. 2 Chroniques 8, on va lire les versets 16 à 18. Ainsi fut dirigée toute l'œuvre de Salomon jusqu'au jour où la maison de l'Éternel fut fondée et jusqu'à celui où elle fut terminée. La maison de l'Éternel fut donc achevée. Salomon partit alors pour Esjon-Geber et pour Éloth, sur les bords de la mer, dans le pays d'Édom. Et Huram lui envoya, encore Huram qui intervient pour le soutenir et l'aider, lui envoya par ses serviteurs des navires et des serviteurs connaissant la mer. Ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir, et ils y prirent 450 talents d'or qu'ils apportèrent au roi Salomon. Ici, je fais une petite précision, c'est que Salomon avait une flotte de navires énorme, mais avec celle de Hiram, avec les Phéniciens, qui étaient les plus grands navigateurs de l'époque. C'est ça, là. Et ils allaient partout où c'était possible d'aller. Les Phéniciens, d'ailleurs, quand on voit leur histoire, ont parcouru la planète et ont contribué avec ce qu'ils amenaient à Salomon à la richesse de son royaume. 2 Chroniques, chapitre 9, un peu plus loin. Lisons le verset 20 et le début du verset 21. Verset 20, 2 Chroniques, chapitre 9, verset 20, pour vous montrer la richesse du royaume de Salomon. Verset 20, donc. « Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. » C'est fort, là. Regardez. « Rien n'était d'argent. » Il faisait pas le cas de ce qui était d'argent, parce que ça n'avait pas de valeur à côté de l'or. Il y avait tellement d'or. OK? On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, de l'argent. Je parle pas de l'argent de la monnaie, là, je parle du métal précieux, l'argent que les gens achètent aujourd'hui. Alors, car le roi avait des navires de Tarsis naviguant avec les serviteurs de Huram. Maintenant, je précise une chose. C'est où Tarsis? Et c'est quoi la ville de Tarsis? Vous pourrez faire des recherches si vous voulez. C'est un port de mer qui est situé sur la côte sud de l'Espagne, près de Gibraltar. Okay? Et en fait, quand on voit l'histoire, c'était l'une des colonies du roi Salomon. Cette région-là, le Portugal, l'Espagne et tout ça. Il y en avait d'autres ailleurs également. Mais on voit par ça que les la main de Salomon s'étendait très, très loin. C'était une des colonies de Salomon. Maintenant, allons plus loin. Revenons, verset 21, 2 Chroniques 9, verset 21. Car le roi avait des navires de Tarsis naviguant avec les serviteurs de Huram. Et ils parcouraient la planète. Et tous les trois ans, et je vais expliquer, et tous les trois ans, arrivaient les navires de Tarsis, ils revenaient, apportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des pains. Bon, là ici, sans que ça paraisse au premier coup d'œil, on a beaucoup de choses qui nous sont révélées. Les singes viennent d'où? Les singes viennent de différents pays de l'Afrique. Alors donc, ces bateaux-là parcouraient l'Afrique et ces gens-là allaient chercher des animaux d'Afrique qu'ils amenaient ensuite à Salomon. Les pains viennent d'où? Les pains viennent de l'Inde. Donc, à ce moment-là, les navires circulaient autour de l'Inde pour amener, entre autres, ces oiseaux-là et sans doute d'autres oiseaux. Et ils revenaient à Jérusalem tous les trois ans, comme je vous ai mentionné. Si vous connaissez un peu votre histoire ou si vous voulez vérifier, il y a le premier navigateur européen moderne qui a fait le tour de la Terre. Il s'appelle Magellan. Ça a été le premier navigateur européen qui a fait le tour de la Terre. Et si vous regardez son histoire, ça lui a pris trois ans. Il a pris trois ans pour faire le tour de la Terre à ce moment-là. Alors, je fais le lien ici pour vous montrer que la flotte de navires de Salomon, avec les Phéniciens, sont allés un peu partout sur la planète pour ramener des trésors à Salomon, selon les promesses que Dieu lui avait faites. Ça, c'est fantastique quand on regarde ça. Et Salomon eut aussi, de par sa sagesse et de par sa prestance, il y a eu aussi un impact majeur sur tous les rois de la terre de son époque. On le voit au verset 22 et 23. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par ses richesses et par la sagesse que Dieu lui a donnée. Ça impressionnait tout le monde. Et les gens voulaient voir ce qui se passait et voulaient essayer de comprendre, comme la reine de Séba, qui est venue de plus de 3000 kilomètres pour aller voir Salomon, pour entendre sa sagesse et pour comprendre ce qui se passait. Et regardez, verset 23, « Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. » Ça, c'est formidable, c'était beau. C'est impressionnant de voir l'importance de son royaume et l'impact qu'il avait autour. Mais c'est rien à côté du roi des rois qui sera bientôt sur la terre et qui va faire la même chose, qui va créer la même vague d'intérêt, parce que des rois de la terre vont se tourner vers lui. Gardez votre place ici, on va y revenir, mais allez voir dans Psaume 68. Psaume 68, il est question justement du Christ quand il sera sur la terre, ce qui va se passer, l'impression qu'il va donner, les réactions qu'il va créer chez les rois de la terre. Psaume 68, verset 30. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Quand est-ce ça? Quand il sera à Jérusalem. Après qu'il sera revenu, bientôt, hein? C'est une déclaration concernant ce qui s'en vient. De ton temple, en parlant du Christ, tu règnes sur Jérusalem. Et regardez après. Les rois t'apporteront des présents. Et au fur et à mesure que le royaume va s'établir, que les nouvelles vont s'étendre, les rois de la terre vont vouloir connaître ce grand roi-là, vont vouloir être enseignés par lui et par son équipe. C'est ce qu'on voit ici. C'est formidable. C'est intéressant de voir comment les choses s'organisent. D'ailleurs, quand la reine de Séba est allée pour voir Salomon, le Christ en parle. Il en parle dans Luc chapitre 11, je pense. Oui, Luc chapitre 11, verset 31. Il dit, quand la reine de Séba est allée voir Salomon, elle était impressionnée par lui. Mais le Christ dit, il y a ici beaucoup plus que Salomon, en parlant de lui-même, le grand roi qui va venir bientôt. Alors, voyez-vous, Salomon a connu un règne fabuleux. Dieu lui est apparu deux fois. Dieu lui a donné des richesses et une sagesse sans pareil. Mais ça n'a pas suffi. Parce que son cœur s'est détaché de Dieu à un moment donné. Voyez-vous, c'est pas la richesse ou la pauvreté, c'est pas la santé ou la maladie qui nous garde ou non avec Dieu. C'est un choix personnel et une persistance dans faire ce qu'il faut avec son aide, en comptant toujours sur lui. C'est ça qui fait la différence. Parce que pour Salomon, Les années ont passé. Les années ont passé. L'usure du temps a fait son œuvre. L'usure du temps a agi et la facilité dans laquelle il vivait a agi aussi. Elle a pesé. Les succès qu'il a eus, le savoir qu'il avait, l'a sûrement influencé à un moment donné à voir les choses différemment un peu de ce qu'il devait les voir. L'abondance dans laquelle il vivait l'a aussi peut-être séduit d'une certaine façon. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a commencé à ralentir sa marche vis-à-vis de Dieu. Il s'est éloigné. Je reviens à ça, à la dédicace du temple, à la double fête des tabernacles, les grands miracles qu'il a fait à ce moment-là devant lui et pour lui. Salomon a commencé à oublier, je devrais dire, la réalité de Dieu. Que Dieu est réel. Que ce qu'il avait eu, ce qu'il pouvait faire, ça venait de lui, et qu'il est réel, et que s'il se détournait de lui, qu'il y aurait des choses qui allaient changer en ce qui le concerne. Il a oublié la réalité de Dieu. Il a oublié la gloire de la dédicace du temple et de cette double fête. Je passe les étapes, il a sûrement fait des choses pour atteindre un niveau d'oubli de Dieu à ce niveau-là, mais il y a eu 700 femmes et 300 concubines qui était complètement contraire à la loi de Dieu. Alors, voyez-vous, là, il était rendu loin de faire la volonté de Dieu. Mais avant d'arriver là, il y avait eu probablement des petits degrés de progression dans le même sens. Ça commence par une pensée, ça commence par une petite action, et ça s'ajoute, et ça s'ajoute. Alors, voyez-vous, il y avait 700 femmes et 300 concubines. Son plat de lentilles, comme le sermon puissant qu'on a eu à la fête. Et il a suivi son appétit pour le plat de lentilles, au lieu de suivre Dieu. Il y a des leçons importantes pour nous autres. C'est pour ça que je vous donne le sermon dans l'optique que je vous le présente aujourd'hui. Quand Dieu nous appelle, faut vraiment s'attacher à lui. On a des choix à faire, chaque jour. On a des choix à faire. Faut s'attacher à lui, rester proche de lui, par des choses très simples, comme prier Dieu chaque jour, lui parler, étudier sa parole chaque jour, jeûner régulièrement et s'évaluer. Toujours compter sur lui, toujours l'associer à ce qu'on fait. Les grandes choses comme les petites choses de chaque jour. On n'a pas cette discipline-là au point de départ quand Dieu nous appelle. On fait appel à Dieu quand ça va vraiment mal. Hein? Quand ça va bien, on a moins besoin de lui. C'est un peu ce qui est arrivé à Salomon aussi. Ça a été tellement bien pendant tellement longtemps qu'il avait moins besoin de Dieu et qu'il avait moins besoin de s'appliquer à faire la volonté de Dieu, mais plutôt de faire ce qu'il lui tentait de faire. Ça, c'est toujours la décision qu'on a à prendre dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et c'est chaque jour que ça s'accomplit, que ça se réalise. Chaque petite décision, dans le fond, de notre vie est importante. Il faut qu'elle soit enlignée sur Dieu, puis enlignée sur ses fêtes. Parce que chaque petite décision qu'on prend, elle a des conséquences, qu'on le veuille ou non. Écoutez, prenez le cas d'Adam et Ève. La première décision qu'ils ont prise dans le choix qu'ils avaient à faire, c'était pas une décision énorme, là. Du moins, en apparence. C'est qu'il fallait simplement choisir de manger ou non d'un fruit, d'un des nombreux arbres fruitiers du jardin. Est-ce qu'on en mange ou on n'en mange pas? C'était même physique au point de départ. Mais il y avait un élément de proportion spirituelle éternelle lié à ça. Mais au point de départ, voyez-vous que c'était pas ce qui semblait être une si grosse décision. Est-ce qu'on prend de ce fruit-là ou on n'en prend pas? Est-ce qu'on en mange ou on n'en mange pas? Au lieu de se tourner vers Dieu et dire, Dieu, on nous a dit telle chose, est-ce que c'est vrai? Comme on doit faire quand il y a des rumeurs qui nous arrivent. On doit vérifier la source et non pas prendre la personne qui vient nous apporter des rumeurs. Comme si c'était parole de vérité. Parce que, voyez-vous, la petite décision qui semblait anodine au point de départ, elle avait des graves conséquences pour eux, puis pour toute la famille après, pour toute l'humanité, c'est ça. Deux Chroniques, chapitre 14, 15 et 16 maintenant après. Deux Chroniques, chapitre 14. Là, on a l'exemple d'un roi de Juda, qui s'appelle Asa, qui a pris parfois des bonnes décisions en comptant sur Dieu et qui a été béni. Et à un autre moment donné, il a fait comme Salomon et il a voulu faire les choses à sa façon et il en a payé gravement le prix. Et c'est pour ça que je donne ces exemples-là, pour que nous, on sache qu'il faut maintenant, en revenant de la fête, rester attaché aux valeurs qu'on a goûtées et qu'elles restent aussi importantes et que nos priorités soient fixes et stables chaque jour pour ne pas perdre notre chemin. C'est le roi Assa, donc, comme je vous dis, à un moment donné, il a bien agi et il en a tiré les bénédictions. À un moment donné, il a mal agi et il en a tiré les malédictions. Vous savez, quand on veut faire les choses seul, quand on pense être capable tout seul, quand on pense être capable tout seul en faisant nos propres arrangements pour régler des situations, sans en parler à Dieu, sans consulter, sans y associer le Tout-Puissant, les chances sont que nous ne réussirons pas, que ce ne sera pas quelque chose qui sera béni. 2 Chroniques, chapitre 14. On voit le verset 1 à 3 où il est question du roi Assa ici. Assa fit ce qui est bien et droit au Dieu de l'Éternel, son Dieu, comme Salomon avait fait au début. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Alors, voyez-vous, il a fait ce qu'il fallait faire. C'était bien. Maintenant, après ça, il arrive qu'on voit au verset 7, un peu plus loin du même chapitre, on voit que Assa avait une bonne armée. Le verset 7 nous montre qu'il avait 600 000 hommes dans son armée. C'est ce que le verset 7 nous dit. Mais on voit après qu'il est attaqué. Il est attaqué par le roi d'Éthiopie, qui lui a 1 million d'hommes et des chars. Et à l'époque, les chars dont il parlait, c'était une arme épouvantable contre des ennemis qui n'avaient pas ce genre d'instrument-là. OK? Alors, l'ennemi en face était supérieur en force. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 8. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Maresha. Assa marcha au-devant de lui, et se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsefata, près de Maresha. Qu'est-ce qu'Assa a fait? Son armée était en place, l'autre armée était devant lui, mais c'était une armée de loin supérieure. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se sentait petit, impuissant, comme c'est notre cas souvent. Assa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles, comme aux forts. » Ici, je me suis arrêté quand j'ai préparé le sermon hier soir parce que j'avais jamais vu les deux ensemble comme ça. Il dit, « Dieu, tu peux venir en aide aux faibles, comme je suis dans le moment, ce que le roi Assa disait, j'ai pas la force pour combattre 1 million d'hommes, comme aux forts. » Il dit, « Si jamais j'étais supérieur en nombre, il faudrait que je compte sur toi aussi. » Pour que ça fonctionne. Parce que même si je me pense fort, si je n'ai pas ton aide, je peux perdre. Et je vais perdre. Et c'est ce qui est arrivé plus tard au même roi Assa, je vais vous le montrer tantôt. Alors il dit ici à Dieu, Assa invoqua l'Éternel son Dieu, verset 10, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. « Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Assa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Voyez-vous, c'est l'Éternel qui a donné la victoire. Il y a eu un résultat heureux. Et regardez ce qui s'est passé après. Le prophète de Dieu est allé rencontrer le roi Assa. Le prophète, c'est Azaria, allé au chapitre 15 de 2 Chroniques, juste un peu plus loin. Le prophète de Dieu est allé donner la raison au roi, la raison pour laquelle il a gagné, pour laquelle les ennemis ont été battus. 2 Chroniques 15, versets 1 et 2. Et pour nous, il y a une grande leçon qu'on ne doit jamais perdre de vue. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, ça c'est le prophète, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Assa et lui dit, « Écoutez-moi Assa et tout Juda et Benjamin. » Et regardez le principe ici qui est toujours valable pour nous aujourd'hui. Moi, je l'ai coloré en jaune, cette petite phrase-là. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Et ça implique l'inverse aussi. Si je ne suis plus avec l'Éternel, il n'est plus avec moi. Ou si je m'éloigne de lui, il s'éloigne de moi. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, parce qu'il se laisse trouver, il veut nous répondre. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Alors, c'est ce qui s'est passé. Dieu lui a donné la victoire parce qu'il s'est tourné vers lui. Okay? Là, il se sentait faible. Il s'est tourné vers Dieu. À un autre moment donné, il a pensé faire des petites combines lui-même, sans Dieu, pour être capable d'arriver à des bons résultats. Et ça n'a pas marché. Parce que Dieu n'était pas avec lui. Pas du tout. Plus tard, devant une autre menace, le roi Assa ne s'est pas tourné vers Dieu, mais il s'est appuyé sur le roi de Syrie. Il est allé compter sur un autre roi pour lui venir en aide. Et les résultats ont été désastreux. Allez juste un peu plus loin. 2 Chroniques, chapitre 16. On va lire les versets 7 à 9. Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, c'est-à-dire le prophète de Dieu, alla auprès d'Assa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, tu n'as pas compté sur Dieu, tu as compté sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. » Et les problèmes ont commencé pour lui, gravement. Et il lui rappelle certaines choses du passé, lorsque Dieu l'avait délivré des Éthiopiens, comme on a vu tantôt. Verset 8. « Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars, comme on a vu tantôt, et une multitude de cavaliers, 1 million, comme on a vu tantôt? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. » Très clair. Parce que tu t'étais appuyé sur lui. Et regardez le principe ici. Lui aussi, je l'ai coloré en jaune. Verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, oui, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et il lui dit après au roi Assa, tu as agi en insensé dans cette affaire. Car dès à présent, tu auras des guerres. Et ça a été comme ça régulièrement après. Mais rappelez-vous le principe du début du verset 9. L'Éternel étend les regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Voilà ici le chemin qu'on doit suivre en revenant de la fête des tabernacles. Après avoir été ragaillardi, encouragé avec cette vision et le soutien de Dieu. Et ça, c'est notre garantie de succès. Si on compte sur Dieu dans toutes circonstances. Après la fête des tabernacles de cette année, moi je vous pose une question et je me la pose aussi. Et je l'ai déjà posée d'ailleurs, j'ai commencé à m'examiner de ce côté-là. En revenant de la fête des tabernacles de cette année, quel changement est-ce que nous allons faire dans notre vie pour nous assurer d'avoir un cœur qui est tout entier à Dieu et qui est en train de développer son caractère. Pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'on veut le devenir avec son aide, absolument. Vous savez, l'état du monde se dégrade très, très vite. Très, très vite. Je ne vous apprends rien. J'ai vu une caricature cette semaine qui décrit très bien cet état de fait. Une caricature dans le soleil. Il y avait un immense navire. Ça ressemble étrangement au Titanic. Mais en haut de la coque, c'est marqué « l'humanité ». Okay? Et vous avez plein de gens sur le pont du navire qui regardent vers le ciel, qui sont ébahis, en pleine admiration, et qui disent « l'humanité est sauvée, on vient d'être capable de détourner une météorite qui s'en venait vers la Terre ». C'est ce qui s'est passé dernièrement. Les scientifiques ont été capables, c'est un exploit formidable, mais tellement petit. Alors, les gens sont là sur le pont du navire, tous ensemble, ils regardent ça, les bras en l'air en disant, voici comme un miracle. L'humanité, elle est sauvée parce qu'on est capable de détourner un météorite qui s'en allait vers la Terre. Et en avant du gros navire, vous voyez un iceberg. Une montagne de glace comme celui que le Titanic a frappé. Et moi, ça m'a rappelé une phrase et c'est ce que j'ai noté dans la caricature que j'ai envoyée à quelques-uns. C'est écrit, « Ils ne se doutèrent de rien jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge les emporta tous. » J'ai trouvé que cette caricature-là était puissante. Elle décrit exactement là où l'humanité se situe. Il y a un petit espoir de mieux aller et là, les gens applaudissent et disent, « Voici, on est sauvés. » Mais ils ne regardent pas le désastre qui est en train de se creuser autour d'eux et le mur qu'ils vont frapper bientôt. Vous savez, il y a des changements majeurs qui se multiplient très vite sur toute la planète en ce moment. Question. Quelle sera la situation du monde dans 6 mois? Je vous parle pas dans 5 ans, là. Quelle sera la situation du monde dans 6 mois? Lors des fêtes divines du printemps, quand on va approcher la Pâque et les pains sans levain. Quelle sera la situation du monde? Où est-ce que ce sera rendu? Maintenant, je pose une question encore plus importante que celle-là. Quelle sera ma condition spirituelle dans 6 mois à l'approche de la Pâque et des pains sans levain? Quelle sera ma condition spirituelle dans 6 mois? Est-ce que j'aurai continué à progresser? Est-ce que je me serai collé sous l'aile de Dieu en lui demandant de me montrer les choses à changer et de m'aider à changer les choses en question de tout mon cœur avec reconnaissance, même si je ne suis pas parfait? Ça, c'est important. Vous savez, si nous gardons vivant l'esprit enthousiasmant qu'on a acquis à la fête des tabernacles, soit qu'on a été en présentiel comme nous à Drummondville, ou ailleurs, ou qu'on a été chez soi parce qu'on ne pouvait pas être présent cette année, si on garde vivant l'esprit enthousiasmant de la fête des tabernacles, si on garde les yeux tournés vers le monde de demain qui approche, rapidement, si nous cherchons de tout cœur à faire sa volonté de mieux en mieux, un jour vient, et ce jour-là est devant nous, où nous allons célébrer notre première fête des tabernacles à Jérusalem, en présence de Jésus-Christ lui-même.